Culture Club, en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury.
La Viale, ben ça ressemble à un acronyme. Eh ben non, c'est un village dans les Cévennes, un centre de spiritualité ignatienne qui accueille des retraitants, particulièrement des jeunes de 18 à 30 ans, pour un temps de discernement de partage. Ça, c'est ce qu'on voit sur Internet. Et puis, c'est un retour à la nature, isolé du monde, peut-être pour mieux le retrouver, une vie communautaire, de prière, de travail. Alors, Stéphane Roux est un haut fonctionnaire, ancien élève de l'ENA. Bonjour Stéphane Roux.
Bonjour.
Vous avez été directeur de cabinet ministériel, vous avez managé des milliers d'agents de la fonction publique, et puis, avec votre épouse Marie, vous décidez de tout lâcher, de tout quitter pour passer une année sabbatique. Enfin, une année sabbatique, on va voir que c'est pas de tout repos. Et puis vous partez avec vos trois enfants, Pierre qui a alors 14 ans, Albertine 12 ans et Jean 7 ans. Ils vont être déscolarisés, vous allez leur apprendre le travail des mains, vous allez aussi faire l'école avec eux. Et vous allez découvrir une vie frugale, c'est la mode, une vie spirituelle, ça correspond à la quête de sens contemporaine, une vie communautaire, ce qui va changer votre regard sur les autres, sur la vie et sur vous-même. Alors comment vivre au quotidien dans une communauté dont on n'a pas choisi les membres, avec les problèmes sociaux, les isolés, les paumés. Vous nous racontez tout ça dans un formidable livre qui s'appelle Un pas de côté et qui est publié aux éditions Jésuites Fidélité. Jean-François Roth, bonjour.
Bonjour.
C'est
bonjour.
Vous qui avez déniché ce livre. Oui. Alors, pourquoi ?
Ben parce que je trouve que c'est un livre formidable. Je le présente toujours comme en disant que c'est un témoignage au sens le plus plaignant du mot. C'est-à-dire que c'est un témoignage parce que ça raconte une expérience. C'est une expérience qui est profondément réfléchie et admirablement décrite, écrite et transmise. Donc c'est ça qui fait la qualité d'un beau témoignage. C'est-à-dire que c'est une expérience individuelle, personnelle, familiale, mais vous racontez bien comment vous avez pris la décision, qu'est-ce que vous avez fait là-bas, ce qui a été facile, ce qui a été moins facile. Et puis vous décrivez très, je trouve, formidablement tout ce que ça entraîne chez vous de réflexion sur votre vie. Vous parlez de tout ce que ça vous apprend sur le management, qui est votre métier.
On va en parler de la crise de l'Occident, du management comment ça s'est passé, Stéphane Roux, quand vous avez dit à Marie, allez, banco, on y va, on déménage.
Alors c'est peut-être elle qui me l'a suggéré, qui m'a soufflé. Mais disons qu'on avait vraiment envie de vivre une expérience intense en famille et de pas attendre de vivre nos rêves, la retraite ou de reporter toujours, mais de le faire...
Le mariage d'Albertine.
Et de le faire à la quarantaine venue. Donc on imagine souvent des expériences après les études, des expériences sabbatiques ou à la retraite. Mais nous, on a voulu le vivre à 5 et pas seul ou à 2. Et se dire que c'était possible aussi. Alors, avec la chance qui est la mienne d'avoir quand même une situation professionnelle, des diplômes, c'est peut-être pas facile pour tout le monde.
Vous pouviez retomber sur vos pattes.
Vous pouviez prendre une année sabbatique ensuite après.
Et donc, je rêvais un peu. Je me disais, tiens, on va faire un voyage, on va découvrir les pays de la Méditerranée, on va faire des choses comme ça. Et puis Marie, qui a peut-être plus les pieds sur terre que moi par certains côtés, m'a dit non, mais il y a un endroit où on se sent bien et où on sera utile, c'est la Viale.
Vous y étiez allé plusieurs fois déjà.
On y était allé depuis 2014.
Oui.
Et après, chaque année, une fois qu'on a découvert ce lieu, on a vu que c'était un ancrage important pour notre famille et on y retournait une dizaine de jours pendant l'été.
Et dans quelles occasions, justement, vous y alliez ? Vous y alliez au moment des grandes fêtes du calendrier religieux ou simplement en été pour un moment
discernement ? Dans l'été, pour être dans la nature, vivre sa vie très simple, ça nous plaisait bien. Alors on y est retourné au mois de février quand on a pris notre décision quand même pour voir à quoi ça ressemblait l'hiver.
Oui.
Et c'était plus rude, il y avait plus de feuilles aux arbres, il faisait froid, il y avait beaucoup moins de monde. C'était une petite communauté d'une dizaine ou une quinzaine de personnes, plutôt des sans-abri, d'autres publics. Et ça nous a énormément plu. Et donc,
là-bas normalement. Enfin, j'imagine. Il y a un père jésuite, il y a un patron.
Oui, il y a le père Benoît, alors qui est un chartreux mais adoubé par les jésuites.
Ouais.
Et qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui nous fait la grâce de nous faire une homélie chaque jour, une belle homélie qui nous nourrit et qui nourrit la communauté. Et puis qui est quelqu'un aussi qui a un bon équilibre entre un sens pratique aussi, parce qu'il faut mener les chantiers. On l'a aidé pour ça, mais voilà, il y a toute la vie pratique du village à mener. Et puis c'est quelqu'un qui ne veut pas aussi prendre trop de place, parce que c'est souvent un risque hein, dans les communautés.
Et oui, donc, le côté gourou.
Voilà, et donc il est très attentif à ça, et garde aussi une certaine simplicité.
Mais quand vous arrivez devant le père Benoît en disant « j'ai avec femme et enfant, ça va durer un an », qu'est-ce qu'il vous dit ?
Bah, il dit qu'il va y avoir une période de discernement d'abord, et d'échange avec les jésuites, et puis donc on a écrit notre courrier, et un mois plus tard, on a reçu une réponse positive. Et on a été très heureux de pouvoir rejoindre la communauté. Habituellement, c'était effectivement plutôt des jeunes de 20-25 ans, ouais, qui venaient passer 3 mois, 6 mois, un an, donner un coup de main, parce que c'est un lieu quand même qui reçoit 700 personnes par an, sans aucun salarié. Mmh. Avec deux personnes en réalité, qui est le père Benoît et une dame qui s'appelle Geneviève, qui est une retraitée de l'enseignement belge. Et voilà. Et ces deux personnes-là font tourner ce lieu. Alors, il y a toujours un petit miracle
cours,
avec quelqu'un qui arrive et qui vient donner un coup de main pendant 3 mois, pendant 6 mois ou pendant un an. Mais sinon, c'est chacun qui se prend en charge. Et effectivement, il faut anticiper un peu quand même sur les grosses courses. On n'est pas totalement en autarcie.
Vous n'avez pas mangé des châtaignes toute l'année quand même?
Non, on aimerait bien, mais c'est beaucoup de travail de s'occuper des châtaignes.
Alors, il y a les difficultés... parce que c'est un témoignage qui est sans doute qui aurait pu être plus probant si enfin moi je cherchais un peu le côté anecdotique en racontant notamment les réactions des trois enfants, oui, votre fille aînée qui est adolescente.
Les enfants, comment ils ont pris ça? Ils étaient dans le coup facilement, comment?
Alors, chacun a vécu un peu différemment, mais on a eu l'adhésion de tous pour décider de partir. Quand même. C'était un choix à 5.
C'était les grandes vacances pour eux.
Et c'était les grandes vacances. Alors l'aîné, lui, était un peu boy scout et il était très heureux. Et il s'est révélé aussi dans le service des autres, avec des belles amitiés, avec des jeunes un peu plus âgés que lui. Il a eu une belle vie de prière aussi qui lui appartient, mais il venait quand même tous les jours à la messe. C'était pas obligatoire pour lui. Le plus jeune, c'était Mowgli, la mascotte. Lui, il effondre tout le monde.
On sent que la scolarité était un peu rock'n'roll avec lui. Vous développez pas trop, mais en une ligne, vous dites que,
disons que je pense
le rythme
que
scolaire était compliqué.
Beaucoup de nos auditeurs ont vécu la difficulté de la scolarisation à domicile pendant le confinement. Nous, on l'a vécu un peu avant le confinement. Et effectivement, c'est quand même assez exigeant d'arriver à tenir des enfants 4 heures de suite assis à une table, alors que en plus, à la Viale, autour, il y a la nature qui appelle plein de découvertes qui sont passionnantes.
Enfin, il y a des jours de pluie quand même.
Il y a des jours de pluie, mais il y a des jours de froid aussi. C'était plutôt bonnet et manteau pour pouvoir travailler.
Oui.
Et puis alors ma fille, elle, c'était un petit peu différent parce qu'elle avait 12 ans. Donc un peu plus tôt, ça aurait été un peu Heidi dans la montagne, ça lui aurait bien plu. Là, c'était un peu plus délicat pour elle. Donc il a fallu qu'on soit attentif. La vie en communauté avec des gens qui changent tout le temps. Il fallait quand même bien l'accompagner aussi.
Alors, le sens de la communauté, le goût de la communauté, la nécessité de la communauté. Alors là, dans votre livre,
vous avez un chapitre formidable.
Là, vous êtes formidable parce que on ne s'imagine pas cette attention un peu de tous les moments. Parce que, bon, en effet, il y a ceux qui ne veulent pas faire la vaisselle et puis ceux qui la font. Je vous cite Stéphane Roux. Le moindre problème peut devenir obsessionnel et prendre des proportions imbéciles, surtout lorsqu'on se monte la tête à plusieurs. Si l'on commence à analyser, tout peut devenir sujet à interprétation. Un regard, une présence ou une absence, une simple phrase. Ou se fait-on alors un film ? On se fait alors un film, même si presque tout se passe seulement dans notre tête. Cela n'en rejaillit pas moins sur notre comportement, au risque de créer un problème relationnel qui sera, lui, bien réel. Pour s'en prémunir, mieux vaut suivre le conseil du refrain « Ne laisse pas les ténèbres te parler », non seulement dans mon fort intérieur, mais en parlant trop des autres, avec Marie, en s'échauffant mutuellement, en critiquant. Certes, on peut parfois recevoir le besoin de s'épancher, mais le confident doit veiller autant que possible à offrir son écoute sans surenchérir, à équilibrer les choses en s'inspirant du message évangélique. C'est tout un travail sur soi, ça, Stéphane Roux.
Oui, voilà, la vie en communauté, c'est un apprentissage permanent, en fait. Il y a beaucoup de travail à faire. Au début, c'est une découverte, c'est un peu la période de cristallisation, c'est extraordinaire. On trouve que tout est super, et puis après, on passe par différentes phases. Moi, j'ai énormément aimé cette expérience de la vie en communauté. Je ne suis pas quelqu'un qui recherche la parlotte et le relationnel en permanence, pourtant, mais ça m'a beaucoup nourri, notamment de vivre avec ces personnes qui avaient des parcours de vie très différents. Les sans-abri, c'était quelque chose de vraiment très fort. Et la communauté est quelque chose de vivant, en fait. On se sent proche des autres. Alors, vous disiez tout à l'heure que mon livre était pas tellement, racontait pas des histoires ou des anecdotes. C'est vrai, c'est pas dans mon tour d'esprit. Mais j'ai souhaité témoigner, voilà, de réflexions que m'avait plutôt inspiré cette année.
Et justement, comment est-ce que se passait ce lien entre les sans-abri ou les gens qui sortaient de prison, quelquefois je crois des drogués, etc., et les gens qui venaient faire une retraite, enfin, la communauté, elle était quand même diverse, non ?
Elle est extraordinairement diverse. Je dis que c'est un mouton à cinq pattes, la Viale, parce qu'en fait, il n'a pas une vocation unique, comme souvent, on aime bien mettre des sites dans des cases en disant voilà telle vocation à tel lieu.
Alors, oui, c'est pas qu'une maison de retraite,
grâce à l'esprit belge, peut-être.
C'est pas le Châtelard.
On a dans un savant mélange.
Encore que Penbock, oui.
Et alors, ça fonctionne très bien, la mayonnaise prend. On a des mamies de 70 ans qui viennent, on a des cadres d'une quarantaine d'années, il y a des gens qui sont très loin de la foi, d'autres qui en sont plus proches, et les gens restent parfois une semaine, d'autres deux, trois mois. Tout le monde s'approprie le lieu très vite, c'est assez extraordinaire, et participe à cette vie communautaire. Alors après, les gens sont libres, ils partent quand ils le souhaitent. Hein.
Il y a un cadre, il y a un certain nombre de choses, un peu d'obligation. On accepte en fait on accepte un règlement, entre guillemets, un règlement intérieur. Comment on peut dire ça?
Oui, on accepte. Alors il faut lire le règlement avant de venir, effectivement, pour voir si on adhère bien. Et alors la base, c'est de suivre les offices, puisque c'est quand même un lieu de prière, même si c'est ouvert à toutes les confessions ou toutes les croyances. Il faut accepter de suivre quatre offices par jour, ce qui est quand même assez exigeant. Mais il y a beaucoup de gens qui ne croient pas et qui sont contents de venir chanter les psaumes. Qui sont contents d'écouter l'homélie.
C'est formidable, ça, non ?
Alors, vous, Stéphane Roux, vous avez été formaté, formé pour être un chef, pour conduire des hommes, pour servir dans la fonction publique, c'est-à-dire pour mettre en branle un certain nombre de fonctionnaires pour que ça fonctionne. Et vous arrivez dans cette communauté, on dit, attention, ça va être le chef. Et vous avez du mal à vous dire, non, c'est pas ma responsabilité, moi, il faut que je sois allé couper du bois ou aller frotter un mur. Ça va être compliqué pour vous, ça.
Les premières fois où je suis venu à la Viale, j'étais quand même très embêté par l'absence de souci d'efficacité.
Oui, c'est ça.
Et donc là, il a vraiment fallu que je travaille.
Vous en parlez souvent dans le livre. On sent que vous dites, mais non, franchement, il faut s'organiser autrement. On pourrait être beaucoup, on pourrait aller plus vite et mieux.
Et vous
réfréniez, c'était pas vous qui meniez le truc.
Et ça m'a conduit à une réflexion beaucoup plus profonde sur notre société, la société bourgeoise, telle qu'a pu la décrire Jacques Ellul, notamment. Une société qui est très tournée vers l'efficacité, qui a ses mérites, parce que ça permet de faire beaucoup de choses, de produire, de créer de la richesse, mais qui aussi écrase des gens, qui met de côté personne. Et donc c'est important aussi de savoir ralentir et se mettre au diapason d'un groupe qui fonce pas à 200 à l'heure, qu'on n'a pas choisi forcément.
Et c'est là, Stéphane Roux, votre témoignage devient une véritable réflexion, à la fois sur notre monde, sur notre comportement au monde, et finalement, peut-on faire communauté dans ce monde? Et vous parlez bien des difficultés, de la perte de sens de l'Occident, les changements profonds que procure le télétravail, la science, l'opulence, la société de consommation. Tout est passé en revue dans votre chiffre, et je vous cite, « Le culte des chiffres et du contrôle de gestion a envahi toutes les sphères de l'activité humaine, y compris les activités d'aide à la personne, notamment dans les maisons de retraite, obligeant les travailleurs sociaux à compter leur temps, à réduire au maximum les échanges, déshumanisant des métiers qui étaient par essence des métiers de relation et conduisant à une démotivation croissante. Il n'est pas étonnant que l'on cherche à expédier ce travail au plus vite comme une corvée avant de pouvoir s'évader en vacances. De plus en plus de jeunes qualifiés décident d'ailleurs d'envoyer tout promener pour prendre un travail manuel plus simple, moins rémunérateur, mais qui leur procure du sens et un certain bien-être. Je reviens sur le culte des chiffres et du contrôle de gestion. Et ça, c'est une réflexion que l'on sent au cœur de votre démarche, un pas de côté, dans votre livre, un pas de côté, et on se dit, mais finalement, oui, peut-être que la solution, c'est... c'est ce que vous avez vécu.
Je ne sais pas quelle est la solution, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que on a effectivement trop un souci du quantitatif. Et on peut-être parce que aussi on n'ose plus dire ce qui est beau, ce qui est vrai, mais les pouvoirs publics, le politique a la possibilité et le devoir sans doute de dire ce qui est qualitatif, quel type de société on souhaite et pas forcément toujours vouloir le quantifier, le mesurer et le faire grossir.
Est-ce qu'il ne faut pas supprimer définitivement le fichier Excel de nos écrans ? Pour regarder l'autre et non plus l'écran.
Ça a du bon quand même, parfois. Je retombe dans certains travers, malgré tout.
Je sens le haut fonctionnaire qui a ses revues d'avancement hebdomadaires.
Parce que vous citez un exemple, peut-être entre les lignes, on sent que tel ou tel, quelquefois, dans la communauté qui arrive, en fait, pose problème, parce qu'il ne rentre pas vraiment dans le moule, il ne fait pas d'effort pour participer au travail commun, etc. On sent... Et là, vous dites... Vous exprimez que Benoît, donc le responsable, vous paraît quelquefois un peu, presque un peu passif. Non, est-ce que j'ai bien compris ?
Tout à fait. Oui, oui. En pensant que les problèmes peuvent se régler d'eux-mêmes ou que le temps, en tout cas, va faire son office. Et de fait, il y a beaucoup de gens qui, au début, se demandent un peu et puis finalement, ils font leur propre cheminement au contact de la communauté dans ce lieu. Voilà. Et c'est vrai que. C'est quelque chose que j'ai appris à ses côtés, c'est que il faut pas vouloir toujours trouver une solution rapide et vouloir régler les problèmes, mais parfois
le temps
dénoue les problèmes. Voilà. Alors pas toujours, hein. Et puis il y a cette équipe qui est très difficile, je trouve, que je vois dans la vie communautaire, que on voit aussi, et je pense aussi par rapport à mes expériences professionnelles, sur ce que peut dire le pape sur les sujets de migration, qui sont des sujets extrêmement délicats. C'est deux sujets très différents, évidemment, mais c'est qu'est-ce qui appartient à un ensemble qu'il faut protéger, parce que ça a de la valeur, parce que la communauté, c'est quelque chose qui a de la valeur, qu'il faut protéger. Et puis l'individu, le message du Christ, il est extrêmement clair de ce point de vue-là, c'est la personne humaine, la dignité de la personne humaine, qui doivent être respectées de manière infinie. Et comment est-ce qu'on trouve cet équilibre entre les deux?
Voilà. Ça, c'est... Mais pour accepter justement de laisser du temps au temps, il faut que le reste de la communauté, par exemple, supporte bien un comportement qui ne doit pas être si facile que ça. Mmh. Quelqu'un qui fout rien, pour parler vulgairement.
Oui.
À la fin, j'imagine que les autres disent, bon, quand même...
Ils profitent de la situation.
Très peu, parce que les gens sont vraiment... Enfin, c'est peut-être aussi... Les gens qui décident d'y aller, ils sont bienveillants. Ils savent que des gens qui ont des choses, qui ont des problèmes, qui vivent des choses difficiles. Et donc, ça, peu importe. Il y a toujours les mêmes, parfois, qui font la vaisselle. C'est pas grave, c'est comme ça. Et puis, un jour ou l'autre, celui qui le fait jamais, il va finir par la faire et puis ce sera très bien. Personne lui aura demandé de le faire et il décidera librement de le faire et c'est ça qui a de la valeur.
Très bien.
Alors, je vous demandais si on pouvait reprendre cette expérience pour la replacer dans notre vie au quotidien, finalement. Et vous avez un paragraphe sur la paroisse, et parce qu'on voit bien que l'Église, c'est compliqué, que les fondamentaux sont en train de partir, et qu'il faut peut-être repenser et organiser tout ça. Plus largement, écrivez-vous, dans nos paroisses moribondes, il serait bon de retrouver une forme de vie communautaire, comme cherche à l'impulser certains évêques qui ont bien compris ce besoin. Faire communauté en paroisse, prier ensemble, se rendre service, s'aider financièrement, ne pas se limiter à la pratique hebdomadaire de la messe ni à l'entre-soi de paroisses de plus en plus marquées socialement, réinventer une vraie fraternité, une solidarité profonde, authentique, scellée sur le partage non seulement de l'accessoire mais aussi de l'essentiel. Ça peut faire bouger les choses, ce que vous nous dites là.
Enfin, je n'invente rien. Je pense qu'effectivement, il y a des paroisses qui savent faire émerger ce type de projet. Il y a des évêques qui essaient de l'impulser. Et ça revient un peu à certaines racines du christianisme, hein, de petites communautés qui s'entraident et qui vivent, ensemble.
Oui, Jean-François Rodin.
Oui, qui supportent les différences. Enfin, moi, je vis dans une paroisse où il y a une grande communauté tradie et une communauté plus ancienne. Et c'est pas si facile que ça de s'accepter vraiment. Mais En même temps, l'expérience montre que le rapprochement peut se faire vraiment. Mmh. Alors, là aussi, ça m'a beaucoup intéressé de ce que vous dites sur la communauté, parce que je pense qu'il y a beaucoup à prendre pour supporter les différents, même les énervements sérieux, hein, sur un certain nombre de sujets. Il y a une vraie divergence d'opinion et de... Mmh. Comment est-ce qu'on fait pour se rassembler sur l'essentiel, vraiment,
l'écoute.
Et supporter beaucoup d'agacement.
Ouais, enfin, c'est ce que j'ai vécu aussi dans cette vie en communauté qui m'a plu, c'est la découverte de l'altérité. Alors, vous me direz, c'est peut-être un peu tard, à 40 ans, de découvrir que les autres sont différents.
Mais non.
Mais c'est vrai que moi, j'ai une approche plutôt un peu rationnelle, d'efficacité, sentiment peut-être d'avoir raison de manière excessive. Et vivre avec d'autres à leur rythme, avec leurs idées, ça apprend beaucoup. Et je pense que pour un haut fonctionnaire, c'est quelque chose d'utile. Hein. On a vécu avec la crise des Gilets jaunes ce malaise très profond de la société française sur cette absence d'écoute, ou ce sentiment d'écoute du politique, des élites. Et ça y participe. Hein. Je pense que parfois, on a une approche qui est trop technicienne, trop rationnelle. Et ce que viennent nous raconter des gens, bon, ils écoutent poliment parfois, pas toujours. Et derrière, on continue comme d'habitude. Hein, voilà.
Entre la vérité et avoir raison, l'homme préfère toujours avoir raison. Comment votre livre, justement, a-t-il été perçu dans la haute fonction publique? Alors, on a le gouverneur de la Banque de France, sans doute un ami d'enfance de votre éducation jésuite, qui signe une préface authentique et aussi touchante que son poste est important, mais pour les autres fonctionnaires?
Écoutez, moi j'ai des retours qui sont très touchants aussi, de gens que ça fait.
C'est parce que vous êtes sympathique.
Cheminer, réfléchir. Alors après, je fais pas des conférences dans la fonction publique en tant que telle.
Oui, pas encore.
Mais en tout cas, les personnes qui l'ont lu. Voilà, ça fait, c'est une petite graine aussi qui chemine. Lorsque j'avais l'occasion de parler de cette expérience avec des amis qui sont en cabinet ministériel ou autre, c'est une petite fenêtre qu'on ouvre sur un autre univers, notamment, enfin, j'en profitais pour parler pas mal du sujet du sans-abrisme.
Oui.
Et parce que c'est un sujet qui est très important pour les pouvoirs publics aussi, hein, dont on s'occupe tous les jours, l'État s'occupe en permanence, mais peut-être pas toujours avec les bonnes approches ou en ayant compréhension vraiment de ce dont ont besoin les personnes. J'ai beaucoup aimé la lecture de Thomas Merton, je le cite à plusieurs reprises, et il dit des choses très intéressantes sur ce sujet. C'est-à-dire que parfois, les gens qui sont dans le besoin, ils n'ont pas besoin d'argent, ou ils n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, mais ils ont besoin de fraternité, qu'on se mette à côté d'eux et qu'on les écoute et qu'on travaille avec eux ou qu'ils nous disent ce qu'ils souhaitent.
Aujourd'hui, Stéphane Roux, nous manquons de prêtres et où les paroisses sont de moins en moins vivantes, notamment dans les campagnes. Est-ce que l'on pourrait imaginer des petites communautés comme la Viale au sein de petites structures disséminées dans le pays pour accueillir et puis recevoir des gens comme vous pour donner un coup de main? Ça serait une bonne idée?
Ce serait une superbe idée. Ouais. Après, il faut qu'il y ait des vocations derrière, mais je suis sûr que...
Eh bien, je pense que vous allez en créer, avec un pas de côté, témoignage des quatre saisons d'un énarque en communauté avec les plus démunis. C'est aux éditions Jésuites. Jean-François Rode, il nous reste quelques minutes, parce que vous avez deux livres à nous proposer.
Oui, et même trois. Je pensais à un troisième. Voilà. Je voudrais signaler un livre que je trouve formidable, du frère François Cassin-Genat, Trévedis. Alors, c'est un nom difficile à retenir. Retenez surtout Cassin-Genat, comme ça. François Cassin-Genat. Propos d'altitude, c'est chez Albin Michel. Alors, François Cassin-Genat est un normalien, un érudit, un grand intello.
Encore une élite qui part dans le désert.
Et il est devenu moine, il est devenu moine à Légusé, et même il est devenu ermite maintenant. Mais comme il dit, un ermite très sociable.
Dieu choisit
beaucoup
siens, hein.
Avec la communauté du Cantal dans lequel il se trouve. Mais surtout, c'est un écrivain franchement extraordinaire. Il fait un livre. Alors, c'est pas facile à décrire parce que c'est un peu des aphorismes des moralistes français. C'est un peu des pensées de Pascal.
Oui.
C'est un peu de la poésie. En fait, il dort très peu, paraît-il. Alors, il le dit. Il avait fait d'ailleurs plusieurs livres qui s'appelaient Étincelles. C'est ce qui sort de sa méditation, sa contemplation la nuit.
Ses marches à pied.
Alors, il fait des... Par exemple, cite un exemple. Il entend des chats qui se battent. Combat de chats dans la nuit. Eros, amour. Eris, querelle. Toute la matière suffisante d'un traité des passions. Pas mal, hein? Ou encore... Rien n'est sensible qui ne soit aussi tendu, comme peut l'être la corde d'un arc ou d'une cithare. Et nul n'est sensible qu'il ne soit aussi tendu. Le mou
est incapable d'être ému.
Bon, c'est un bouquin.
Ah, c'est pas mal quand même. Bon,
c'est un bouquin emporté en retraite pour c'est, méditer c'est un peu
bouquin,
chaque jour.
C'est un bouquin de table de chevet. Voilà. Il faut l'ouvrir. Moi, je l'ai ouvert au hasard. C'est deux citations. Je les ai prises comme ça en ouvrant le livre. Et ben voilà, ça vous stimule. Je trouve que c'est formidable. Et puis, je cite encore.
Allons-y, parce que le générique est parti.
C'est vrai, ouais. Charles Wright. Le chemin du cœur, c'est un livre, c'est la sortie en poche, mais je signale, Charles Wright, c'est celui qui a fait ce magnifique livre, Le chemin des estives, et il travaille beaucoup à faire connaître André Louf, qui est un moine cistercien, qui était père abbé du Mont des Cats, et son livre sort en poche, ça s'appelle Le chemin du cœur. Voilà, si vous voulez rencontrer un grand maître spirituel, prenez ce livre-là. Parce que j'ai encore 30 secondes.
15.
Et on va fêter l'anniversaire du cardinal André 23.
Oui, 80 ans.
Eh bien, je signale un petit livre qu'il a fait qui n'a l'air de rien, qui s'appelle « Connaître la foi catholique » et que je donne à tous ceux qui le souhaitent parce que c'est un commentaire très simple et formidable des fondamentaux de la foi.
Merci.
Connaître la foi catholique.
Merci Jean-François Rode. Merci beaucoup Stéphane Roux pour ce pas de côté, les quatre saisons d'un énarque en communauté avec les plus démunis.